Exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
De retour pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité, c'est la Libre Antenne, 20 minutes pour commenter tous les sujets qui vous marquent dans l'actualité de ces derniers jours, actualité africaine, française, internationale. Vous êtes nombreux à souhaiter revenir sur la destitution du président de la Cour constitutionnelle en Guinée. Eh bien, nous vous donnerons la parole dans un instant. Des témoignages encore et toujours sur la rentrée scolaire, c'était cette semaine dans de nombreux pays d'Afrique francophone, rentrée perturbée hein, dans plusieurs pays. Le procès à la CPI de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, l'élection présidentielle au Cameroun, jour J-2, on en parlait en première partie d'émission avec Karine Franck, là aussi on prendra quelques auditeurs. Mais d'abord, Gustave qui nous appelle de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Bienvenue sur notre antenne. Vous réagissez, Gustave, à la décision des députés canadiens de retirer à Aung San Suu Kyi la nationalité canadienne honorifique. C'est un privilège qui lui avait été accordé il y a un peu plus de 10 ans lorsqu'elle était emprisonnée en Birmanie. Et vous saluez, vous, cette décision du Canada?
Oui, Juan, je salue totalement cette décision-là, étant donné que Aung San Suu Kyi se comporte contrairement aux critères qui ont milité au prix Nobel de la paix qui lui a été attribué. Vous vous rendez compte, pendant qu'elle était dans l'opposition, elle a même été publicité l'icône de la lutte contre l'oppression. Maintenant qu'elle est aux affaires, ce qu'elle fait subir aux Rohingyas n'est pas acceptable. Mmh. C'est vraiment contraire aux critères d'attribution du prix Nobel. C'est comme cela que...
Alors, ce n'est pas tant elle qui fait subir à la minorité Rohingya toutes ces violences et ces exactions, c'est l'armée qui est responsable de ces violences. Ce qu'on lui reproche à travers le monde, c'est son silence. Certains parlent même d'un silence coupable. Elle pourrait demander à l'armée, en tant que dirigeante de la Birmanie, d'arrêter de commettre ces crimes, mais elle ne le fait pas. En tout cas, elle ne le fait pas publiquement.
Vous savez, Juan, entre l'oppression et l'oppresseur et l'opprimé, il n'y a pas de milieu. Soit on est du côté de l'oppresseur, soit du côté de l'opprimé. Elle a choisi le silence qui l'arrange du côté de l'oppresseur. Et de cette manière-là, elle ne mérite plus le prix Nobel de paix qu'elle a eu. Mmh.
Certains demandent hein, à ce que le comité Nobel lui retire son prix. Plusieurs personnalités à travers le monde ont critiqué et critiquent l'inaction d'Aung San Suu Kyi. Le comité Nobel a été évidemment interrogé sur cette possibilité. Eh bien, figurez-vous, Gustave, que c'est impossible. Impossible de révoquer un prix Nobel de la paix. Quand on est prix Nobel, c'est pour la vie, puisque cette possibilité n'est pas mentionnée dans le testament du fondateur du prix Nobel, donc Alfred Nobel, et ce n'est pas prévu dans la charte d'attribution du prix. Donc elle sera prix Nobel de la paix jusqu'à la fin de ses jours.
Ok, merci beaucoup.
Bah voilà, enfin non, je répondais pas à votre question, mais c'est intéressant de vous entendre. C'est vrai qu'on a vu ici et là sur les réseaux sociaux des pétitions, des personnalités lui demander de sortir de ce silence. On se souvient des propos de Desmond Tutu, lui aussi prix Nobel de la paix sud-africain, dire que nous avons tous la responsabilité de faire en sorte que la souffrance des Rohingyas ne soit pas passée sous silence. Le Dalai Lama lui-même, rappelez-vous Gustave, avait appelé Aung San Suu Kyi à sortir de sa réserve. Merci de nous avoir interpellés sur cette actualité. Bonne journée à Lubumbashi. On va parler maintenant dans cette libre antenne de l'élection présidentielle de dimanche au Cameroun. Avec nous, Joseph, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de RFI.
Alors on en parlait en première partie d'émission avec Karine Franck, l'envoyée spéciale de RFI au Cameroun. On parlait de la situation dans les régions anglophones. Et vous craignez que le scrutin ne puisse pas se tenir correctement dimanche au nord-ouest et sud-ouest du pays?
C'est la grosse peur qu'on aura pour cette élection, Juan. Parce que en temps normal, il est difficile de vivre dans ces régions anglophones. Et on voit mal comment les gens vont aller voter dans des milliers de bureaux de vote qui sont disséminés à l'intérieur de la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Et il faut dire que c'est dommage parce que c'est une tâche qui va rester sur cette élection. Et on voit d'ici le pouvoir qui n'a rien fait, absolument rien, pour que les gens aillent voter dans la paix dans ces régions.
Oui. Alors quand vous dites, excusez-moi, quand vous dites que le pouvoir n'a rien fait, le pouvoir a déployé l'armée sur place pour sécuriser les bureaux de vote.
Oui, mais le nord-ouest et le sud-ouest ne sont pas que les grandes villes. La majorité des populations dans ces zones vivent dans les villages, Rouen, pas dans la ville, pas dans les villes. L'armée n'est pas allée dans les villes, l'armée est dans les centres urbains. Or, le plus gros des populations de ces régions sont dans les villages.
Oui.
Et vous avez dit dans vos éditions du journal depuis quelque temps que les gens fuient les villages. Ça veut dire que dans les villages, c'est difficile d'y vivre et la majorité des bureaux de vote se trouvent dans les villages.
Oui.
Et moi, je pense que l'État n'avait aucun intérêt à se presser parce que traditionnellement, ces deux régions votent contre le pouvoir. Donc, je vois d'ici la malice des gens du pouvoir qui n'ont rien fait.
En tout cas, vous voyez une intention de pouvoir peser sur le scrutin présidentiel. En tout cas, les séparatistes, eux, ont clairement menacé la tenue du scrutin. Karine Franck le disait tout à l'heure. Et ils ont même menacé les villageois, les personnes qui iraient voter dimanche. Vous craignez donc une forte abstention dans ces deux régions ?
Il y aura une forte abstention, Juan. Déjà, la majorité des populations de ces régions sont parties, ne sont plus là-bas. Certaines sont au Nigeria, d'autres sont dans les grandes villes, voilà Yaoundé,
oui.
Et dans une certaine mesure, Mafoussam. Ça veut dire que cela ne peut pas voter parce que Karim Fahm a dit dans un de papier ce matin que l'ELECAM n'a pas assuré que ceux qui se sont déplacés vont voter là où ces populations sont maintenant installées.
Alors justement, les déplacés pourront voter là où ils sont installés, ils sont tout de même 200 000, à une seule condition, c'est qu'ils aient fait les démarches pour s'inscrire sur une liste électorale autre que là où ils vivent en temps normal. Donc il faut avoir fait cette démarche-là et visiblement, peu ont eu le courage, la volonté, après avoir fui des violences, de nouveau s'inscrire sur une liste électorale. Merci beaucoup de cette réaction. On vous souhaite une bonne journée à Yaoundé. On reste au Cameroun avec Ruben, qui est à Douala exactement. Bonjour Ruben.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Alors vous disiez au Standard vouloir nous parler de l'engouement pour cette élection présidentielle. Vous avez l'impression que ça faisait bien longtemps que les électeurs, la population d'une façon générale, ne s'intéressaient pas autant à un scrutin présidentiel.
Oui, écoutez Juan, je tiens à vous préciser que à un peu plus de 30 ans d'âge, je n'ai jamais vécu une élection présidentielle avec autant d'engouement que celle de 2018. Il faut noter que on a 9 candidats en lice, dont 3, je pourrais dire, parmi les plus anciens, et 6 novices qui briguent la magistrature suprême pour la toute première fois. Il est perceptible au sein de la population, et surtout de la population jeune, un réel engouement. Beaucoup, beaucoup de jeunes se sont inscrits en se disant « Nous avons rendez-vous avec l'histoire dimanche le 7 octobre 2018. »
Donc vous pensez qu'il peut y avoir un changement dimanche ?
Écoutez, nous sommes à une élection présidentielle et ma foi, tout est possible. Même si le pouvoir, le régime en place, ou alors le président sortant est donné largement favori, mais je crois que tout est possible.
D'accord. En tout cas, vous irez voter, vous, visiblement. Cet engouement, vous l'avez suivi également sur les réseaux sociaux. J'ai entendu Karine Franck cette semaine consacrer un reportage justement à la campagne électorale qui se déroule sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Et là aussi, c'est une première.
Écoutez, avant de vous parler des réseaux sociaux, je dirais oui, je suis prêt. J'ai ma carte d'électeur et je n'attends plus que dimanche pour aller voter. Maintenant, parlant des réseaux sociaux, oui, il y a eu une très, très forte implication des jeunes sur les réseaux sociaux. Déjà, je tiens à vous préciser que le président de la République a annoncé sa candidature via son compte Twitter,
oui.
Ce qui n'a pas manqué de susciter également de l'engouement chez les autres candidats. Nous avons vu de multiples groupes sur les réseaux sociaux avec des partis.
Oui. Et pour être honnête, les autres candidats ont utilisé plus que d'habitude les réseaux sociaux parce qu'ils avaient le sentiment tout de même d'être un peu défavorisés dans le traitement de l'actualité par la radio-télévision camerounaise. Merci beaucoup Ruben, bonne journée à Douala et bon vote donc dimanche, 10h49 ici à Paris. C'est la Libre Antenne, tous les sujets nous intéressent, j'ai même vu que certains souhaitaient revenir sur les prestations, la prestation exemplaire, formidable de Neymar, mercredi en Ligue des Champions face à Belgrade, l'étoile rouge de Belgrade. Si on a le temps, évidemment, on parlera de Neymar. Mais d'abord, Albert, qui est en Australie. Bonjour Albert.
Oui, bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de la Radio Mondiale.
Bon début de soirée en Australie. Quelle heure est-il actuellement chez vous ?
Il est 18h49 minutes maintenant.
18h49, vous êtes à l'heure, effectivement. Albert, vous nous interpellez, vous, sur un sujet sérieux. Là, on blaguait sur les horaires entre la France et l'Australie. Un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. C'est la situation sécuritaire à Beni, en République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu.
Tout à fait. C'est la situation sécuritaire à Beni qui préoccupe beaucoup avec les élections qui pointent à l'horizon. Nous avons une situation très très grave au niveau du territoire de Beni et les environs, les communes rurales. Et la chose la plus dommage est que les opposants ils sont plus focalisés sur la machine à voter que sur la sécurité des électeurs qui sont à Beni.
Alors Beni, pour nos auditeurs, c'est donc dans le Nord Kivu, l'insécurité n'en finit pas sur place alors qu'il y a malgré tout des casques bleus de l'ONU, l'armée congolaise est présente et on voit bien que l'ONU comme l'armée est incapable d'assurer la sécurité de cette ville et vous dites, donc si je comprends bien Albert, que plutôt que d'aller polémiquer sur la machine à voter, la machine du vote électronique, hein, écran tactile, les opposants feraient mieux d'interpeller les autorités sur la situation sécuritaire dans cette région.
Tout à fait. La situation sécuritaire à Beni et dans d'autres contrées rurales de la République. Nous avons hier une attaque à Beni. Il y a eu le décès d'un officier supérieur de l'armée congolaise hier à 17h30. On n'arrive pas à comprendre l'indifférence totale des opposants à ce qui concerne la sécurité des électeurs de Beni. Et ces électeurs, ils font partie des habitants de la République démocratique du Congo. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui que depuis les massacres il y a 4 ans, il n'y a personne qui vraiment s'implique activement pour que ça s'arrête.
Ouais, 700 civils tués, 15 casques bleus également tués depuis octobre 2014 dans la région de Beni. Vous avez la dent dure contre l'opposition. En même temps, vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs députés de l'opposition ont lancé un appel aux Nations Unies et à la SADC, à la Communauté de Développement d'Afrique Australe, pour leur demander de déployer sur le terrain une nouvelle force armée, une force indépendante de l'armée congolaise et de l'ONU pour garantir la sécurité.
Ma foi, il y a une force déjà de l'ONU qui est sur place. Il y a les militaires, il y a une brigade spéciale des Nations Unies qui fait partie des pays comme la Tanzanie, le Malawi, l'Afrique du Sud. Ce sont des pays qui sont membres de la SADC. Moi, je ne vois pas comprendre comment ils sont encore en train de chercher une autre force.
Oui. Le problème. Oui, vous vous dites à quoi bon rajouter une force supplémentaire sur le terrain alors qu'il y a déjà des casques bleus et l'armée est congolaise. Albert, je vous interromps, je suis désolé, je sentais bien l'envie de prolonger la discussion, mais nous n'avons que 20 minutes et vous êtes nombreux, comme tous les matins, à souhaiter commenter l'actualité. En tout cas, merci de nous écouter en Australie, je vous souhaite une belle soirée et un bon week-end. Je vous le disais tout à l'heure, vous êtes nombreux et vous l'étiez déjà il y a une dizaine de jours à souhaiter réagir à la destitution du président de la Cour constitutionnelle, une décision qui est jugée illégale par de nombreux juristes. L'opposition, elle dénonce un forcing. En tout cas, cette semaine, Alpha Condé, le chef de l'État, a entériné par décret l'élection d'un nouveau président de la Cour constitutionnelle. Bonjour Ismaël.
Bonjour.
Vous êtes assez remonté, vous, hein ?
Absolument.
On vous écoute.
Écoutez. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je constate ici que le pouvoir exécutif est en train de tout passer ses compétences. Il est en train d'immixer dans le domaine du pouvoir judiciaire. La crise au sein de la Cour constitutionnelle, l'organe qui a la compétence de régler cela, c'est la Cour suprême. Mais à la grande surprise, nous avons constaté que le président de la République a pris un décret pour intérimer l'élection d'un président au sein de la Cour constitutionnelle dont la procédure appropriée qui sied a été totalement violée.
Oui. Mais alors, à vous entendre, le pouvoir serait donc derrière la destitution du président de la Cour constitutionnelle. Dans quel but, dans quel intérêt selon vous ?
Écoutez, je pense que l'acte qui a été posé par le président de la République, cela prouve suffisamment qu'il est en train de nourrir une ambition inavouée. Et c'est là inacceptable.
Alors, inavoué, ambition inavouée, soyez plus explicite.
Bon, écoutez, hein, ce qui se trame dans notre pays, c'est cette histoire du troisième mandat. Sinon, cela n'est pas à l'avantage du président de la République de prendre un acte qui constitue aujourd'hui une ouverture à la déstabilisation des institutions de la République de façon générale, généralisée.
Et donc, est-ce qu'il donne du grain à moudre à l'opposition et à ceux qui sont mécontents, comme vous, Ismaël, c'est qu'on se souvient que le président de la Cour qui vient d'être limogé avait dit lors de l'investiture d'Alpha Condé pour son second mandat, « Monsieur le président de la République, gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes, car si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. » Autrement dit, faites attention, ne soyez pas tenté justement par un troisième mandat. Ismaël, je le disais, beaucoup de monde sur cette question, et moi qui étais à Conakry il y a encore quelques jours, je me suis rendu compte sur place que ce sujet dominait les discussions, les débats dans les différentes radios de la place. Bonjour Mamadi.
Oui, bonjour Juan et bonjour à l'ensemble de vos millions d'auditeurs.
Merci, on vous écoute sur cette destitution.
Oui, moi je dirais que par rapport à la destitution de Maître Khalifa Sall par les huit conseillers de la Cour constitutionnelle, n'a rien à voir avec la politique, il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez que l'ancien président Khalifa Sall était à la tête d'une Cour constitutionnelle qui composait neuf membres, y compris lui-même, mais... Dans ces derniers temps, les huit conseillers ont estimé que M. Khalifa Sall est en train de faire ce qu'on appelle une gestion opaque par rapport au, au budget qui est alloué à la Cour constitutionnelle. Donc, ces huit conseillers, de façon unanime, ont pris une motion de destitution contre M. Khalifa Sall. Donc, quand je vois des uns des autres s'agiter pour dire que oui, c'est le président Alpha Condé qui est derrière cette destitution, moi je dirais non.
Alors vous dites non, mais bon, mais il se trouve que ces gens-là, pour reprendre votre expression, dénoncent un coup de force constitutionnel, car le président de la Cour peut être démis de ses fonctions, mais sous certaines conditions, et visiblement, il n'a pas violé son serment, le serment qu'il a prêté au moment d'entrer en fonction, et il n'a pas non plus été condamné définitivement en matière pénale. Ce sont les deux motifs qui permettraient de destituer un président de la Cour constitutionnelle. On aura l'occasion d'en reparler, c'est promis, dans les prochains jours. J'aimerais qu'on termine avec Ibrahim, qui nous a appelé de Dakar. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Juan, comment allez-vous?
Bah écoutez, ça va très très bien. On va terminer la semaine avec vous, la Libre Antenne avec vous. Vous souhaitiez rendre hommage à Charles Aznavour.
Oui, je voulais rendre un vibrant hommage à ce icône, cet ambassadeur de la culture française, ce charmeur, ce type qui nous a enthousiasmés, un petit homme qui remplissait toute une salle de sa voix et qui est venu au secours des cœurs brisés dans sa chanson « Et pourtant » que j'aimerais bien écouter.
Ah, « Et pourtant ». Et pourquoi c'est votre chanson préférée de Charles Aznavour?
Oui, parce que c'est venu à un moment donné où, comme lui, j'ai senti filer entre les mains une muse.
Ah.
Et plus tard...
Vous avez eu un chagrin d'amour à ce moment-là.
Voilà, vous avez compris.
Bah,
et
oui.
Là, il me disait plus tard et que je serai dans d'autres bras et j'irai jusqu'à oublier ton nom, mais pourtant.
Alors, vous savez quoi, Ibrahim? Sans vouloir vous replonger dans ces moments un peu difficiles avec vos histoires amoureuses, écoutez, pourtant.
Que je parte à jamais, me détachant de toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom.
Ibrahim, vous la connaissez par cœur, cette chanson?
Oui, je revois, je retrouve les lettres, les mots.
Ouais.
C'est un puissant et je vous remercie infiniment.
Je vous en prie, merci à vous de nous avoir appelés. Et je rappelle à nos auditeurs qu'une édition spéciale sera à suivre tout à l'heure à 13h15, heure de Paris, édition spéciale en hommage à Charles Aznavour qui reçoit en ce moment.